Dom Théo. Dom Théo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Bonjour frère Édouard.
Bonjour frère Philippe.
J'ai les yeux sur l'article 522, là où nous en sommes dans notre parcours du catéchisme. Et en fait, sur cette section, les mystères de l'enfance et de la vie cachée de Jésus, qui vont nous montrer déjà un Dieu qui prépare, c'est la première partie, les quelques premiers articles qui préparent ce que Dieu va venir faire en Jésus-Christ. Et puis nous aurons, Saint Jean-Baptiste, et entrer dans la question de l'Avent. Mystère de Noël, nous allons avoir... Après les mystères de l'enfance de Jésus, la circoncision, peut-être qu'on est moins habitué à savoir quel est l'enjeu de ça, l'épiphanie, la présentation de Jésus au temple, la fuite en Égypte. Après, nous aurons les mystères de la vie cachée de Jésus, soumission de Jésus, son recouvrement au temple, etc. Et puis les mystères de la vie publique de Jésus, le baptême, etc. Mais peut-être, frère Édouard, je voudrais dire une chose. Est-ce que... Peut-être que certains auditeurs ou certains chrétiens se disent « qu'est-ce que c'est que ce discours qui veut prendre les choses de haut, qui joue un peu baroque, les mystères, pourquoi on ne dit pas les épisodes de la vie de Jésus, pourquoi les étapes ?» Peut-être qu'il est important de montrer justement que ce mot « mystère », il mérite d'être utilisé, on va l'utiliser quand on prie le rosaire, les mystères du rosaire. C'est pas histoire de se la jouer, si je puis dire les choses comme ça. Pour notre attitude spirituelle, dans notre vie de foi, ça nous aide. La manière dont on parle, c'est pas simplement pour faire de l'esbrouf, c'est quand même, ça doit nous former le cœur.
Oui, il y a un appel à croire dans le mot mystère. Sinon, je suis dans l'humain, et même un humain très spirituel, très beau. On pense aux étapes du Bouddha, par exemple, dans sa vie, où il arrive jusqu'au moment de l'éveil, comme on dit. On voit des étapes successives d'un homme. Mais là, nous sommes dans une autre dimension. Nous ne sommes pas seulement dans le spirituel. Nous sommes dans une intervention surnaturelle. C'est Dieu qui vient vivre parmi les hommes. Jésus, à chaque fois que nous lisons un passage de l'Écriture, c'est le vrai Dieu, la deuxième personne de la Trinité, qui s'est incarné dans cette humanité pour notre salut. Et le mot mystère me rejoint d'une certaine manière toujours vers ce kérigme de notre foi. Jésus est venu parmi nous, il est mort et ressuscité pour notre salut. Et donc si j'oublie, je perds le sens du mystère et je ravale dans une sorte de comparaison entre les religions très plate tout ce qui est advenu et je perds le sens de mon salut. Je risque de faire de la spiritualité, si vous voulez, mais de la spiritualité, je peux en faire partout. Je peux chanter le dhikr avec les soufis, je peux m'isoler avec le bouddhisme, je peux faire des choses tout à fait intéressantes d'un point de vue spirituel, parce que j'ai une âme. Mais il s'agit d'un enjeu beaucoup plus grand, c'est la grâce. Et la grâce est surnaturelle, et c'est Jésus qui est la source de toute la grâce. Et ces mystères n'ont pu être délivrés que dans une grande préparation, parce que le cœur de notre Dieu est un cœur d'amour, et il ne fait rien sans nous préparer. Il n'y a rien de grand, comme disait saint Hippolyte, sans préparation. Et il a donné tout l'Ancien Testament en préparation du Nouveau Testament. Et il a donné, dans la belle figure de son cousin Jean-Baptiste, un précurseur. Tous les grands événements de l'histoire de l'humanité ont toujours un héros qui annonce quelque chose. Et Jésus a été précédé ainsi par le prodromos, celui qui lui a préparé le chemin, qui est à la fois qui dépasse tous les prophètes, qui est en même temps le dernier des prophètes, qui inaugure l'Évangile, et à propos duquel Jésus a cette parole mystérieuse en disant qu'il est le plus grand parmi les hommes, et en même temps le plus petit du royaume est plus grand que lui. Je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question, qui est ce plus petit dans le royaume ? ça paraît quand même, en y réfléchissant, très probablement Jésus lui-même. Jésus qui a toujours voulu apparaître aux yeux de ses disciples comme celui qui est doux et humble de cœur. Il n'a pas voulu arriver avec une espèce de surplomb, je dirais, de majesté, qui aurait fait que tout le monde se serait incliné immédiatement devant lui. Il a voulu donner une image de la douceur dans l'esprit pour nous attirer à lui. Et je pense que ce plus petit dans le royaume le désigne lui-même. Et dès que nous rentrons dans ce royaume, alors nous sommes avec Jésus, le plus petit des enfants des hommes. C'est une très belle, je trouve, expression qui nous fait comprendre combien Jésus veut être proche des plus petits et qui nous attire à lui.
Et le plus petit dans le royaume est plus grand que lui,
oui,
Jean-Baptiste.
Jean-Baptiste,
et effectivement.
Et qui cela peut être sinon Jésus lui-même? Et
oui, oui, c'est effectivement une très belle interprétation qui montre et la grandeur de Jean-Baptiste
et
finalement
grandeur,
et la grandeur de chacun de nous, puisque Jésus n'a pas craint de prendre cette place du plus petit
du plus
avec
petit
nous.
Et de nous y attirer d'une certaine manière pour que nous entrions dans le royaume, alors que Jean-Baptiste a été ce précurseur magnifique et le plus grand des enfants des hommes. La liturgie de l'Avent aide beaucoup chaque année l'Église à nous préparer à Noël, mais aussi à nous préparer à son retour dans la gloire, car de même que Jésus est parti, de même il reviendra, disent les anges au moment de l'ascension, et les apôtres, et nous-mêmes à la suite des apôtres, nous attendons son retour dans la gloire, nous le disons à chaque credo, il reviendra dans la gloire. C'est un ardent désir de son second avènement que nous avons peut-être un peu perdu dans l'intensification des siècles, parce que si les premiers chrétiens s'imaginaient que Jésus allait revenir immédiatement, il a fallu déchanter un petit peu quelque part. Mais si les textes de l'Écriture nous sont donnés, c'est pour que nous restions quand même vigilants et dans cette tension qu'il n'y a pas un jour de notre vie qui nous rapproche davantage de ce retour dans la gloire. Et le jour où il arrivera, eh bien, prions pour que Jésus puisse trouver la foi. Il se pose d'ailleurs la question en toute vérité, quand je reviendrai sur la terre, y trouverai-je la foi? C'est entre nos mains, donc c'est un cadeau qui est là, à conserver, à garder, garder le précieux dépôt, comme dit Saint Paul dans son épître à Timothée, et nous devons être très attentif à veiller pour ne pas perdre le sens de ces mystères. Que Jésus soit venu sur la terre, c'est vraiment le mystère de l'admirable échange, comme le chante la liturgie, en particulier au numéro 526. Je crois qu'il ne faut pas manquer ce texte. Ô admirable échange, le Créateur du genre humain, assumant un corps et une âme, a daigné naître d'une vierge. Et devenu homme sans l'intervention de l'homme, il nous a fait don de sa divinité.
Ah oui, c'est un cantique.
Le cantique, voilà. L'échange admirable.
L'échange admirable, oui. Et cette idée d'échange admirable, oui, on l'entend pendant le temps de Noël, dans les préfaces ou dans des oraisons. Ce n'est pas forcément quelque chose de si simple. Quel est cet échange qui se fait? Nous recevons la divinité de celui qui est venu prendre notre humanité.
Voilà, on le dit à chaque messe, d'ailleurs, le prêtre le dit en mettant une petite goutte d'eau dans le vin qui va être consacré. On évoque cet admirable échange, c'est très beau. C'est-à-dire que nous donnons notre pauvre humanité, nous donnons notre humanité qui a été déformée par le péché, mais qui reste bonne parce que le Créateur a fait toutes choses bonnes. Et Jésus vient, en descendant notre humanité, nous restaurer et nous remettre, je dirais, dans la grâce. Et c'est ça, cet échange, un échange perdant pour Dieu, d'une certaine manière, parce qu'il prend quelque chose de très pauvre et de très négatif, et nous recevons du positif.
Hein,
C'est un échange qui n'est pas, je dirais, égalitaire.
Non, pas du tout. Et du reste, quand tu prends l'image de la liturgie avec la goutte que l'on met dans le calice de vin, on voit que ce n'est pas égalitaire, on voit que la goutte, ce n'est pas grand-chose. Oui. Par ailleurs, c'est intéressant aussi cette image, le symbole que ça va donner, c'est que on ne peut plus dissocier la goutte d'eau du vin une fois que ce mélange est fait.
Oui, oui, c'est là où nous voyons que nous sommes vraiment liés au Christ par toutes sortes, comme dit saint Paul, de liens et de ligaments, mais nous faisons corps avec lui. C'est le corps mystique, comme on l'appelle l'Église, et le corps mystique vraiment de notre Seigneur Jésus. C'est une réalité qui nous fait adhérer de tout notre être, de tout ce que nous sommes, à Jésus-Christ.
Eh oui. Noël, mystère de l'admirable échange. Il y a, nous verrons, je pense, dans nos prochains entretiens, les mystères de l'enfance de Jésus. C'est ainsi qu'ils sont appelés dans le catéchisme, avec la circoncision, l'épiphanie, la présentation de Jésus au temple, la fuite en Égypte. Ces mystères que nous célébrons à Noël, mais qui sont plus ou moins marqués et plus ou moins présents aujourd'hui. La présentation de Jésus au temple, il y a une fête pour ça, l'épiphanie évidemment, n'en parlons pas. Frère Édouard, nous n'aurons pas le temps de le faire maintenant, mais peut-être qu'il sera bien de parler de la circoncision, qui est un moment, un de ces mystères qui n'apparaît plus autant dans la liturgie, qui n'a pu apparaître par le passé. Nous regarderons cela dans notre prochain échange, si tu en es d'accord.
Très volontiers.
Merci, frère Édouard.